Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous dans Europe Soir, si vous nous retrouvez en direct, le journal dans quelques secondes. 19h20, le Club des Idées, on parlera ce soir des langues régionales, alors que le Conseil constitutionnel a censuré les fameuses écoles immersives. La colère monte en Bretagne, au Pays Basque, en Occitanie, en Corse. Alors ces langues régionales sont-elles une menace pour la France, comme on l'entend parfois, ou au contraire un héritage culturel à défendre? 19h40, notre rendez-vous quotidien en direct de Roland-Garros, service Pioline, avec toute la rédaction pour tout savoir des matchs du jour, de la coulisses et des infos insolites. Ce sera évidemment avec Cédric Pioline. D'abord le journal avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans la Drôme. La classe politique unanime condamne. Le président minimise l'incident.
Deux personnes interpellées, deux hommes de 28 ans, originaires de la région, qui sont actuellement en garde à vue.
Au sommaire également, la vie qui reprend dans de nombreux secteurs. Demain, nouvelle étape du déconfinement.
Dès ce soir, les Bleus ont obtenu une dérogation. Ils joueront avec du public au Stade de France pour leur match de préparation à l'Euro. Ce sera contre la Bulgarie.
Et puis on ira à Roland-Garros, bien sûr, prendre des nouvelles, notamment de la rencontre Zverev-Davidovic-Fokina.
La météo, Anissa Haddadi. Ça commence à sentir l'été pour de vrai cette fois.
Ah, ça y est, là on y est et je peux vous dire qu'on est parti pour plusieurs jours. C'est vrai que dès le début de la journée, demain, le beau temps est au rendez-vous sur tout le pays sans exception. Attention, les orages sont de retour dans l'après-midi sur la façade est. Les températures sont estivales et gagnent encore quelques degrés demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce devait être un déplacement placé sous le signe du déconfinement, marqué par des rencontres entre Emmanuel Macron et les restaurateurs, mais ce n'est pas ce que l'on retiendra de cette deuxième étape de ce Tour de France des territoires dans la Drôme.
Oui, à la mi-journée, alors que le président est atteint l'Ermitage, il s'approche de la barrière derrière laquelle la foule s'est massée. Comme à son habitude, Emmanuel Macron s'apprête à échanger quelques mots avec les personnes présentes lorsque l'une d'elles lui met une gifle.
La scène a été filmée, on verra qu'elle suscite énormément de réactions, mais d'abord, Jean-Rémy Baudeau, vous suivez le président de la République dans ce déplacement. Après cet incident, Emmanuel Macron a poursuivi sa visite dans la Drôme, comme si de rien n'était ou presque. L'Élysée fait tout pour banaliser cet événement.
Oui, depuis le moment où Emmanuel Macron a été giflé, l'Élysée n'a cessé de minimiser l'incident, parlant d'ailleurs tout d'abord d'une tentative de coup, et puis par la suite, le président a poursuivi son déplacement, ses échanges avec la population. Une tentative de gifle ne saurait effacer des milliers de sourires et d'échanges, ce risque un proche du président. L'Élysée qui a même savamment orchestré une riposte par l'image, offrant un bain de foule dans les rues de Valence, tout en ayant pris soin d'écarter la presse pour éviter les questions. Emmanuel Macron, qui est en visite actuellement avec son épouse Brigitte dans une antenne du groupe Live, une école de la seconde chance dans laquelle la première dame est très investie. Emmanuel Macron qui rentre ce soir à Paris, il a tout de même répondu à une question de notre confrère du Dauphiné Libéré. Ne laissons pas des individus ultra-violents prendre possession du débat public, ils ne le méritent pas, fin de citation. Reste un geste lourd symboliquement. Emmanuel Macron avait déjà été pris à partie, insulté dans des bains de foule. Jamais il n'avait été physiquement agressé depuis son élection.
Merci Jean-Rémy Baudeau en direct. Jean-Rémy qui suit donc cette visite présidentielle dans la Drôme pour Europe 1.
Et on vous retrouve Marion Dubreuil. Que sait-on des deux personnes qui ont donc été immédiatement interpellées?
Eh bien, ce sont deux hommes de 28 ans, originaires de la même commune, Saint-Vallier, dans la Drôme, à une trentaine de kilomètres de Tain-l'Hermitage. Ils sont tous les deux inconnus des services de police. Le premier est soupçonné d'avoir giflé le président, le deuxième d'avoir filmé la scène, mais son rôle précis reste à déterminer. Ils sont en garde à vue depuis 5 heures maintenant pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, un délit passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ce matin, ils attendaient avec une vingtaine de personnes la sortie d'Emmanuel Macron en visite dans un lycée hôtelier. Certains scandaient des slogans de gilets jaunes, d'autres se revendiquaient anarchistes. La préfecture de la Drôme en avait dispersé certains, mais pas eux. Leur motivation reste inconnue à cette heure, si ce n'est qu'au moment de frapper le président, le suspect a crié « Montjoie Saint-Denis, abat la Macronie ». C'est un cri de guerre royaliste qui remonte au XIIe siècle et c'est devenu un signe de ralliement à l'extrême droite. Cet homme, qui se présente comme un instructeur en arts martiaux historiques et qui apparaît en tenue médiévale sur les réseaux sociaux, n'est pas particulièrement politisé d'après les premiers éléments de l'enquête. Il a bien participé à des mobilisations gilets jaunes sur sa commune, sans être pour autant un élément moteur.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Alors on vous le disait, la classe politique est unanime et elle a immédiatement condamné cette agression donc du chef de l'État.
La droite comme la gauche et notamment Alexis Corbière, le député de la France Insoumise.
Déjà, un message de solidarité en direction du président de la République. Tout le monde connaît nos désaccords avec Emmanuel Macron, avec sa politique, mais il est hors de question, que ce soit par la violence, que ce soit par les menaces, que le débat démocratique se tranche. Ne banalisons pas ce geste. il est dans un climat où on le sait, il y a des menaces de plus en plus fortes. Si on veut que le climat refroidisse, c'est par le débat et certainement pas par la menace et les coups qu'on peut trancher ça. Et puis il faut des institutions qui permettent à ce que le peuple reste un acteur à tout moment, sans quoi un sentiment général que les élus ne servent plus à rien et que même quand le président de la République est devant vous, on le frappe, peut se répandre un peu plus que ce que c'est le cas aujourd'hui.
Alexis ouais. Corbière de la France Insoumise au micro européen d'Hélène Terzian.
Oui, condamnation également du député Les Républicains Julien Aubert.
Il est tout à fait inacceptable qu'on s'en prenne physiquement à quiconque d'ailleurs, et a fortiori au président de la République. On doit respecter la charge qui est la sienne, moins que de la violence. Ça reflète une époque qui ne respecte plus rien. Donc ça a commencé par les professeurs, ensuite ça a été les policiers, ensuite ça a été les maires, les députés, maintenant c'est le président de la République. Et aujourd'hui ce sont des gifles, demain ce sera peut-être autre chose. Donc il faut remettre, si vous voulez, de l'ordre et un respect de la hiérarchie. Et ça montre qu'il y a une agressivité à l'égard du président de la République, mais on serait bien naïf de croire que c'est uniquement dû à Emmanuel Macron. N'oublions pas que tous les présidents de la République ont été détestés.
Le député Les Républicains Julien Aubert, qui, comme l'ensemble de la classe politique française, condamne donc cette agression dont a été victime aujourd'hui Emmanuel Macron dans la Drôme.
L'actualité ce soir, c'est aussi la perspective d'une soirée qui se prolonge. À partir de demain, on ne sera plus obligé d'être rentré chez soi à 21h.
Et oui, ce sera 23h et on pourra aussi manger au restaurant à l'intérieur et plus seulement en terrasse. Demain également, on va pouvoir retourner dans les salles de sport, mais également dans les stades avec un plafond de 5000 personnes. Même chose pour les festivals en plein air, sachant qu'il faudra un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Les fêtes foraines aussi rouvrent. La jauge descend à 4 mètres carrés par visiteur, par ailleurs, contre 8 jusqu'à présent dans les lieux culturels et dans les commerces.
Bien, et dans la banlieue de Lille, un grand espace de loisirs indoor ouvrira demain. C'est un concept unique en Europe. C'est même le deuxième plus grand site de loisirs indoor de France.
Et l'ouverture de cet espace avait été plusieurs fois retardée pour cause de crise sanitaire. Autant dire que sur place, on est très impatients, hein, comme en témoigne ce reportage de Lionel Gougelot.
Le bar, le restaurant, les jeux vidéo, les pistes de bowling et les flippers n'attendent plus que les visiteurs. 7000 mètres carrés d'espace de divertissement pour tous les âges. Mais protocole sanitaire oblige, le site multi-loisirs baptisé All You Need ne tournera qu'à moitié de sa capacité, 800 visiteurs maximum. Laurent Sirard, responsable communication.
C'est vrai que ça demande des adaptations au niveau de l'organisation, au niveau de la formation du personnel. Mais nous, ça va nous permettre de démarrer tranquillement. Donc même à demi-jauge, c'est déjà super pour nous. On attend avec impatience de recevoir les clients.
Sur le plateau de jeu en réalité augmentée, Chad, l'un des animateurs, répète les consignes de sécurité.
Après chaque utilisation, donc on va désinfecter tout ce qui est matériel, donc le masque, le gilet, les pistolets, etc. C'est une petite contrainte, mais c'est une contrainte qu'on est content d'accepter parce que justement on attend ça depuis très longtemps.
Des contraintes qui ne devraient pas, selon Cyril Paréda, créateur du complexe de loisirs, réfréner les envies de divertissement des familles.
On voit bien que depuis 6-8 mois, ils étaient confinés, ils ont envie vraiment de se lâcher. Donc on va voir, j'espère que ça va bien se passer, qu'on sera en place, mais alors malgré le fait que ça soit quand même compliqué d'ouvrir un tel établissement, même à demi-jauge, mais non, moi je suis assez confiant sur le devenir de ce type de concept de multi-activité indoor. Ouais.
Avec un souhait partagé par les 50 salariés recrutés ici, qu'il n'y ait plus à l'avenir de confinement qui viendrait fragiliser le projet. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et notez que demain, mercredi, marque aussi le grand retour des employés sur leur lieu de travail avec l'assouplissement du télétravail.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes la suite du journal. France-Bulgarie, c'est ce soir au Stade de France. Dernier match de préparation des Bleus avec des spectateurs.
Et puis on ira à Roland-Garros, bien sûr.
A tout de suite. C'est donc le dernier galop d'essai pour l'équipe de France de foot, une semaine avant son entrée en lice dans l'Euro.
Les Bleus affrontent ce soir la Bulgarie au Stade de France à partir de 21h10. Et on vous retrouve en direct, Cyril de la Morinerie. Alors ça va faire du bien à tout le monde, hein, Cyril, parce qu'il y aura pour la première fois des spectateurs dans les gradins. La Fédération française de foot a en effet obtenu une dérogation avec un jour d'avance sur la nouvelle étape du déconfinement.
Isabelle, oui. Ça fait tellement de bien de voir des supporters sur cette esplanade du Stade de France. On n'a jamais autant aimé faire la queue au guichet, attendre pour prendre un verre en terrasse, avoir les oreilles qui sifflent après un coup de trompette soudain près des oreilles. Enfin, on retrouve des supporters habillés de la tête aux pieds, drapeau à la main. Ils sont heureux, même soulagés comme Patrick.
Ah, c'est le pied, hein. Ça fait un an et demi qu'on ne pouvait plus être là. Se retrouver ensemble, de retrouver l'équipe de France et avec l'objectif quand même de l'Euro. C'est génial, quoi. Moi, je me retrouve comme un gamin de 10 ans, quoi.
Vous êtes prêt à chanter ?
Oh là, que oui. Allez, 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 allez,
allez, allez, allez. Voilà, les fans des Bleus que j'ai croisés allez, mesurent leur chance de faire partie des 5000 privilégiés qui assisteront à cette rencontre la dernière avant l'Euro, car cela fait tout de même depuis le 11 octobre dernier, la venue du Portugal, qu'il n'y avait plus de public, hein, pour un match de l'équipe de France. Alors, il faut évidemment retrouver ses automatismes.
On a perdu les habitudes là, ça va revenir très rapidement. Bon allez, Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire.
Voilà, une belle Marseillaise retentira tout à l'heure au Stade de France avec des joueurs français eux aussi très heureux de retrouver une partie de leurs supporters pour ce match qui doit servir d'ultime test avant le départ des Français à Munich lundi prochain.
Merci Cyril de la Moridrie, on a hâte en tout cas de vivre cette Euro avec
vous. Vous avez un pronostic évidemment Cyril.
Sur l'euro ?
Oui, non, victoire de la France. Sur ce match, cher
ami. Ah, sur ce match ?
Oui.
Ah, mais écoutez, franchement, les Français, là, ils sont très bien. Ils ont gagné leur dernier match contre le Pays de Galles. Les Bulgares ont dit qu'ils étaient fatigués, donc les Français vont s'imposer 3-0 aussi.
À combien ?
3-0.
Ah bah dites donc, vous pouvez le dire directement, ça fera gagner du temps. Merci mon cher Cyril. Allez, à tout à l'heure, merci à vous.
Et tout de suite, direction Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on connaît, ça y est, l'affiche de la première demi-finale dames. La Russe Anastasia Pavlichenkova a battu la Kazakh Elena Rybakina. C'est sa première qualification pour une demi-finale de Grand Chelem. Et chez les messieurs, en ce moment, vous suivez Axel May, le match qui oppose toujours Alexander Zverev, l'Allemand, à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.
Oui, le premier quart de finale masculin. Zverev qui mène pour l'instant le Longinine allemand. Vous savez, adepte de ce t-shirt Marcel qui laisse apparaître les épaules, tête de série numéro 6. 24 ans, appartient à la nouvelle génération du tennis mondial. En face, il y a la surprise espagnole. Alejandro Davidovich Fokina, de parents russes comme Zverev, 22 ans, 46e mondial. Les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés en grand chelem à l'US Open l'an dernier, en 8e de finale. Zverev s'était imposé, il était allé ensuite jusqu'en finale. Et pour l'instant, c'est bien parti puisque Zverev, il y a eu break dans le premier set. Finalement, Zverev remporte la première manche 6-4 et il y a déjà 5-1 dans la deuxième manche en faveur de Zverev. Ensuite, le deuxième quart de finale opposera Medvedev, deuxième mondial, à Tsitsipas, le grec, cinquième mondial. Match en principe à 21h. Et pour l'instant, vu que le rythme accélère, il est possible que l'horaire soit respecté.
Merci Axel May, en direct de Roland-Garros.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS pour jouer.
Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. La météo Anissa Dadi, du beau temps avec encore quelques orages, mais globalement il fera très beau demain.
Oui, c'est ce qu'on va retenir effectivement. Une belle journée Julien. Demain après une belle matinée partout, c'est dans l'Est encore une fois que les orages et orages forts vont éclater. Alors de la Lorraine à la région Rhône-Alpes, nous aurons un temps qui va devenir de plus en plus instable au fil de la journée. Quelques petites averses sur la Franche-Comté, des coups de tonnerre. C'est en montagne en fait, sur les Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et le Haut-Var que le tonnerre gronde demain après-midi. Ailleurs, l'ambiance est estivale, ensoleillée. Attention, dans le sud, Mistral et Tramontane soufflent encore un petit peu demain, jusqu'à 50 km/h en rafale. Nous allons gagner 1 degré. Il fera bon, sans excès de chaleur. 10 degrés à Brest, 14 à Paris, 18 à Nîmes, 21 degrés à Perpignan, ça c'est le matin. Dans l'après-midi, 21 degrés pour Dunkerque, 24 pour Aurillac, 27 à Nice et à Lyon, 29 degrés à Paris et à Bordeaux, 32 degrés à Nîmes. Une quinzaine de Roland-Garros sans jamais avoir bâché les terrains, je pense que ça sera possible parce que jusqu'à dimanche, on va avoir du très beau temps.
Bon, ça tombe bien, ils avaient construit un toit spécialement pour Roland-Garros.
Eh ben, ça sera pas pour cette année.
merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h.
Europe 1, Julien Bugy.
19h14, restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse aux langues régionales. On en parle avec nos invités, à tout de suite.
Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc aux langues régionales. Sont-elles aujourd'hui menacées ? Une loi devait renforcer le statut des écoles immersives qui font donc la classe en occitan, en breton ou en corse. Mais cette loi, eh bien, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et à l'approche des élections régionales, eh bien, c'est un sujet qui devient explosif. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Alors pourquoi une telle censure ? Que représentent vraiment aujourd'hui ces langues régionales ? Menacent-elles aussi la langue française, comme l'affirment certains ? On en parle ce soir avec nos invités, l'académicien Jean-Marie Roard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, essayiste, auteur de Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions Bouquin. On en parle également avec Michel Feltin-Palas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Express, auteur d'une lettre d'information sur le bout des langues et auteur de l'ouvrage Le français, une si fabuleuse histoire. C'est aux éditions Larousse. Et on en parle également avec Jorah Jouria. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des écoles immersives en langue basque. Merci infiniment d'être avec nous à distance. Alors, Jean-Marie Roard, je commence par vous. Vous y êtes favorable, vous d'abord, à titre personnel, à ces écoles immersives en langue régionale ?
Non, je crois que la position du Conseil constitutionnel est une position, je ne sais pas si c'est une censure, on ne peut pas parler d'une censure, finalement, il a été logique. Le Conseil constitutionnel, il dit la loi. Et il dit la loi. Et il se trouve que dans la Constitution, la langue française, la langue de la France, c'est le français.
Oui.
Donc il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne pouvait pas subitement dire, ben non, il y a plusieurs langues. Il faudrait qu'il y ait une réforme de la Constitution. Donc c'était, il était complètement logique avec, à mon avis...
Oui, mais dans les faits, elles existent, ces écoles immersives.
Certaines existent, oui. Mais c'est, disons, c'est au niveau local. Parce que, regardez tout ce que ça aurait entraîné. Ça aurait entraîné, sur le plan, disons, des papiers d'identité, des actes notariés, ça aurait entraîné que tous ces actes soient faits dans la langue de la région. Donc ça aurait été, pardon de le dire, mais ça aurait été un bordel terrible, et ça aurait été compliqué. Et puis, ça aurait été une remise en cause du français au moment où ce français est lui-même terriblement menacé par le franglais.
Alors c'est là-dessus que je veux vous entendre. On va laisser de côté peut-être la décision du Conseil constitutionnel et parler plus largement de la place de ces langues régionales aujourd'hui dans l'attachement culturel de certaines régions et puis dans l'histoire aussi de notre beau pays qu'est la France. Peut-être un mot d'abord, Michel Feltin-Palas, sur ce que représentent aujourd'hui les langues régionales. Alors moi j'ai regardé la dernière grande étude qui date de 2002 qui a été faite par l'Institut National d'Études Démographiques qui permet donc d'évaluer le nombre de locuteurs par langue. On découvre que le créole, c'est la langue régionale la plus utilisée, avec 2,5 millions de locuteurs. Suivent un certain nombre de langues, l'occitan, 1,2 million, l'alsacien, 880 000, à égalité d'ailleurs avec le breton, 880 000 également, le corse, 180 000, le basque, 50 000, le catalan, 110 000. Donc ça représente quand même des millions de personnes quand on met bout à bout l'ensemble de ces personnes qui parlent ces langues régionales.
Oui, il y a plusieurs millions de personnes. Le phénomène est souvent mésestimé à Paris, parce qu'à Paris, la langue régionale, c'était le français qui s'est imposé dans tout le territoire, mais il y a beaucoup de locuteurs. Ce qu'il faut savoir malheureusement, c'est que ces locuteurs sont en forte baisse et c'est historique. On arrive à un moment où ces langues sont menacées.
Pourquoi vous dites malheureusement ?
Malheureusement, parce que toute langue est une richesse. Il suffirait d'imaginer, par exemple, une Europe où on ne parlerait que anglais, où en Italie on parle anglais, en Allemagne on parle anglais, en Espagne on parle anglais, en France on parle anglais. Ce serait un appauvrissement culturel de l'Europe. Et bien de la même manière, si la France perd ses langues, puisque c'est un pays plurilingue, la France, ce serait un appauvrissement culturel.
Comment sont enseignées aujourd'hui les langues régionales en France où est-ce qu'on les apprend?
Alors, principalement à l'école. Longtemps, le mode de transmission naturel de la langue, c'est la famille. Ça a été le mode de transmission historique en France. Ce mode de transmission a été découragé, je dis bien découragé, de deux manières. Quand on a créé l'école publique laïque obligatoire à la fin du 19e siècle, la seule langue de l'éducation, ça a été le français.
Oui.
Et donc le français est devenu la seule langue de la promotion sociale. Et donc le choix qui s'est posé pour les familles, c'était soit je passe au français dans la famille pour favoriser la réussite de mes enfants, soit je continue à parler breton, corse ou autre chose, et je complique, je handicape leur réussite sociale. Le deuxième système qu'il faut connaître, c'est que ça a été des méthodes de punition, voire d'humiliation. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Une petite fille dans une école de Marseille, dans les années 1900, qui parle provençal, c'est sa langue maternelle. Quand elle est surprise à parler provençal, elle est de corvée de toilette. Et si elle récidive, elle doit nettoyer les toilettes avec la langue, parce qu'elle a péché par la langue.
Alors, j'ai même vu qu'en
Bretagne... petite fille n'a jamais transmis le provençal à ses enfants. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on a découragé la transmission par les familles, donc il reste qu'une méthode, c'est l'école.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'en travaillant le sujet, j'ai découvert que l'école a été l'instrument de cette politique, puisque les enfants, jusqu'à il y a 70 ans à peu près, étaient, comme vous le disiez, punis s'ils parlaient une autre langue que le français. En Bretagne, c'est un autre exemple que j'ai trouvé, cette répression fut également traumatisante, puisque il y avait le port du symbole sabot, porté autour du cou, pour ceux qui étaient amenés à parler le breton, alors qu'ils n'en avaient pas le droit, qui symbolisait l'appartenance au monde paysan. Donc on renvoyait à une appartenance sociale, en l'occurrence le monde paysan, qui était vécu comme une forme d'humiliation, le fait de parler sa langue régionale. Je voudrais votre avis, Peyo Jorajouria. Vous êtes donc président d'une fédération Icastola, école immersive en langue basque. Vous êtes français, vous êtes basque, évidemment. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette censure du Conseil constitutionnel? Est-ce que pour vous, c'est une... j'allais dire, c'est une absence de reconnaissance de votre culture et de votre patrimoine culturel?
Ah, ça va au-delà de l'absence de reconnaissance. Là, si on s'en tient au mot près à la décision du Conseil constitutionnel, c'est une interdiction. Nous, la Fédération CHK, elle crée des Icastolas depuis 1969. Ça fait plus de 50 ans que l'on travaille dans le mode de l'immersion. Et depuis 1995, sous contrat d'association avec l'Éducation nationale.
Oui.
Nous sommes un service public d'éducation en immersion. C'est le caractère propre de nos établissements, c'est l'immersion.
Oui.
Et on fait ça depuis des décennies et des décennies. On est en développement avec une grande reconnaissance.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, votre langue régionale, en l'occurrence le basque? Et pardon de cette question un peu bête, mais à quoi ça sert de parler basque?
Moi, ça me sert essentiellement à parler avec mon entourage. C'est ma langue maternelle. C'est ma langue première. C'est la langue que j'utilise avec mes parents, avec mes enfants. C'est la langue que j'utilise souvent au travail, dans différents emplois que j'ai eus.
Mais pourquoi c'est si important pour vous?
Tout simplement parce que c'est une langue. C'est plutôt l'interdiction qui est surprenante.
Oui.
Pourquoi interdire une langue qui sert à décrire le monde? Il n'y a pas, je ne vois absolument pas la logique qui viserait à dire que l'on est, comme on le disait il y a 70 ans, 100 ans, plus rural si on parle une langue différente, moins intégré, moins citoyen si on parle une langue différente. C'est surtout cette absurdité-là qu'il faut interroger. Non, pourquoi est-ce que l'on veut continuer à parler une langue qui est dans notre quotidien? Mais pourquoi est-ce que certains veulent l'interdire?
Oui. Alors, je regardais les sondages de Jean-Marie Roire sur le rapport des Français à la reconnaissance des langues régionales. Et les Français sont plutôt convaincus de ce point de vue-là. Un récent sondage montrait que 72% des Français se disaient favorables à la reconnaissance officielle des langues régionales. C'est un sondage qui est sorti à l'IFOP.
Oui, mais moi je serais bien sévère. Parce qu'on peut prendre une langue régionale comme langue vivante pour passer le bac. Donc, les Iscastolas du Pays Basque, moi vous savez, j'étais élevé dans le Béarn. Donc les gens parlaient béarnais, moi j'adore. Et puis, je passe mes vacances en Corse, les gens parlent le Corse. Je trouve ça très, très bien. Disons, je ne suis pas hostile aux langues régionales, je trouve. Mais le danger que vous avez évoqué, ça a été... La France est un pays qui a, depuis son existence, qui a eu des forces centrifuges et des forces centripètes. C'est-à-dire qu'elle a eu toujours risqué une dissociation. Vous savez bien que c'est par les langues qu'arrivent très souvent les autonomismes et les indépendantismes. Donc c'est pour ça, je crois que c'est l'État qui se défend. Du point de vue de la langue, moi je veux vous dire, la position de l'Académie, d'ailleurs, n'est pas hostile aux langues régionales, parce que ça ne menace pas le français.
Oui.
Non, ce que ça menace plus, mais ça c'est le problème de l'État, c'est pour ça que le Conseil constitutionnel, à mon avis, est dans son rôle, c'est qu'un État avec des langues qui... avec toutes les revendications qui viennent avec les langues. Voilà, c'est une remise en cause de l'État centralisateur.
Bien, vous faites référence à ce qui avait été dit au moment des lois Ferry 1880, ça remonte un peu, et qui avait perduré, c'est qu'à l'époque, on pensait effectivement que le fait de parler une autre langue pouvait nuire au sentiment d'appartenance nationale au moment où vous voulez unifier les régions françaises. Aujourd'hui, on s'est aperçu que ça n'était pas tout à fait le cas, mais on en parle juste après la pause. 19h26, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, dans le Club des idées, on continue de s'intéresser aux langues régionales. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière, un peu d'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire pour comprendre aussi l'actualité. Savoir que le français a commencé à être généralisé en France avec, évidemment, l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur les actes administratifs signés par le roi François Ier à l'époque. C'était en 1539. C'est le plus ancien texte législatif encore en vigueur. Et ensuite, c'est vraiment sous la Troisième République que les gouvernements vont s'attaquer aux langues régionales et au patois. Alors, vous me disiez pendant la pause qu'il ne fallait pas dire patois. Vous allez nous expliquer pourquoi, pour imposer le français. Puis arrivent les lois Ferry, 1880, qui ont fait du français la seule langue en usage à l'époque. Et puis, les premiers pas pour la reconnaissance des langues régionales a été fait avec la loi d'Exon en 51, qui a autorisé l'apprentissage optionnel de certaines langues régionales. Et puis, en 77, le mouvement des écoles Diwan
en Bretagne, mais précédées par les Iscastolas au Pays Basque.
Écoles immersives en Bretagne ont vu le jour jusqu'à 2001, quand Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale, annonce qu'il veut accroître l'enseignement des langues régionales à l'école. Réaction alors ulcérée de Georges Sarre, qui est à l'époque député du Mouvement républicain et citoyen, proche de Jean-Pierre Chevènement, et qui dit ceci.
Quand j'apprends que les enfants se verront enseigner le breton, le basque, le picard, que sais-je encore, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale se rend compte de ce qu'il fait? C'est flatter des minorités ethniques dans le sens du poil, ce n'est pas favoriser l'intégration. Est-ce que nous voulons un pays de 150 tribus ethniques? Ça me révulse.
Michel Feltin-Palas, vous êtes journaliste à l'Express, auteur d'un ouvrage, Le Français, une si fabuleuse histoire. Vous connaissez parfaitement ces questions de langue régionale. Quelle insulte quand même, cette déclaration.
Oui, bien sûr. Puis il faut rappeler qu'historiquement, c'est le français qui était minoritaire.
Oui.
Vous disiez Villers-Cotterêts. Bon, il y a des débats entre les... La plupart des historiens aujourd'hui considèrent que Villers-Cotterêts ne disait pas ce qu'on lui fait dire. Villers-Cotterêts dit qu'il faut que les gens comprennent et propose le langage maternel françois. Et le langage maternel de 90% des Français à l'époque, ça n'est pas le français, c'est d'autres langues. Bref, oui. En tout cas, le français était minoritaire en France. Oui. Et donc c'est un langage minoritaire qui s'est imposé, et que je sache, les gens qui parlaient français n'étaient pas une tribu.
Ça a bien été un outil pour fédérer.
Bien sûr, bien sûr.
Si vous voulez, il n'y avait pas de raison. Autour d'une culture commune.
Moi, la France, c'est un pays que j'adore parce qu'elle est diverse. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'un Alsacien se retrouve avec un Corse, un Breton avec un Savoyard, un Béarnais avec un Flamand, etc. Et on se réjouit de notre diversité, de la gastronomie, pour l'architecture, pour les paysages. Il y a un domaine où on lutte contre cette diversité, ce sont les langues, parce qu'on a peur que le pays éclate. Mais il y a deux manières de faire tenir un pays ensemble. Il y a la méthode démocratique et la méthode suisse. Prenez les Suisses, chacun parle sa langue et ça se passe très bien, ils ont envie de vivre ensemble. Puis il y a des méthodes autoritaires où on essaie de supprimer la langue des autres pour leur faire oublier qui ils sont. Mais moi, je crois qu'on peut être plusieurs choses à la fois. On peut être béarnais, aquitain, français, européen, citoyen du monde.
L'académicien Jean-Marie Roir à ma gauche, en face de vous, cher monsieur, qui a l'air dubitatif.
Non, pas du tout. Non. Moi, je trouve qu'il faut avoir un rapport affectueux avec les problèmes de langue et considérer que si les gens veulent continuer à parler les langues régionales, vraiment, je vous dis, je vois en Corse, et ça n'empêche nullement que les gens parlent une langue régionale et qu'ils parlent très bien français. Moi, je vois les Corses, ils parlent formidablement français, excellent. Et c'est la même chose pour les Basques ou pour les Béarnais. Non, ce que je voulais dire, simplement, c'est vraiment, je trouve qu'il faut être très libéral, il faut... La déclaration de ce député est ridicule, elle est intransigeante. Ça sent sa Troisième République, ça sent Jules Ferry, le côté despotique. Moi, je ne crois pas que c'est par le despotisme. C'est par la compréhension. Mais ce qu'il faudrait quand même expliquer, que la langue française, ce n'est pas une langue régionale. C'est quand même une langue universelle.
Oui.
C'est une langue magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Attendez, pourquoi croyez-vous que tant de gens, des écrivains comme Romain Gary, comme Sioran, comme Ionesco, comme François Cheng, qui venaient de Chine, sont venus apprendre la langue? Pourquoi? Parce que c'est une langue qui véhicule les valeurs de la France.
Oui.
C'est une langue universelle que tout le monde nous envie.
L'un et l'autre ne sont pas antinomiques.
Non, mais je veux dire, en ce moment, la langue qui meurt et dans laquelle il faudrait vraiment avoir une véritable immersion, c'est la bonne langue française. Qu'est-ce qu'on nous parle aujourd'hui? Les gens ne connaissent plus la langue française. Ils ne savent plus faire la différence entre l'intransitif et le transitif. Ils ne parlent que franglais. Même la Sorbonne. La Sorbonne, vous savez comment elle est baptisée aujourd'hui? Elle s'appelle...
C'est pas contre le breton qu'il faut se battre.
Sorbonne
Université.
C'est contre c'est du franglais.
L'anglais.
C'est
contre le franglais.
Je veux dire, non, parce que ça va ensemble. Je veux dire, il faut faire prendre conscience aux gens, même aux gens, que ce soit mais d'ailleurs, les Basques et les Corses sont tout à fait d'accord. Ils sont furieux qu'on détruise, et les francophones, qu'on détruise la langue française et que les pouvoirs publics la laisse détruire, non seulement la laisse détruire, mais participe à sa destruction.
Oui.
Le PASS, le fameux PASS pour les étudiants, c'est PA2S. Donc c'est pas du français, c'est de l'anglais. Nous sommes en train de détruire la langue française pour faire pénétrer l'anglais.
Mais... Alors, allez-y.
Oui.
Pour faire pénétrer l'anglais dans notre belle langue française.
Mais détruire complètement notre langue française. C'est là, il faut qu'on se rende compte, prendre conscience. Si on veut convaincre les immigrés et des gens qui ne parlent pas notre langue et qui viennent, il faut que nous-mêmes ayons conscience que nous avons une langue exceptionnelle.
Je disais tout à l'heure, Michel Feltin-Palas, que vous alliez nous expliquer pourquoi il ne fallait pas dire « patois ».
Oui, l'étymologie de « patois », c'est gesticuler avec les mains comme les sourds-muets.
Oui.
Donc c'est un terme qui n'a aucun fondement scientifique.
C'est une forme d'insulte.
C'est l'équivalent de « youpin » pour juif, de « négro » pour quelqu'un d'Afrique noire, etc. C'est une insulte.
Oui, c'est une insulte.
Et ça a été un terme inventé pour faire croire qu'il y avait en France une vraie langue et des fausses langues qu'on appelait des patois.
Oui.
Non, toutes les langues sont des langues. Elles sont d'un point de vue linguistique égal. Toutes les langues peuvent tout dire. Certaines, simplement, ont obtenu un statut officiel, d'autres non. Mais elles sont hiérarchiquement égales.
J'ai lu en préparant ce débat qu'on pensait que ça pouvait déstabiliser l'apprentissage du français pour les enfants. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Excusez-moi. Pour les enfants qui avaient l'apprentissage de deux langues, en l'occurrence une langue régionale, et puis cette belle langue qu'est le français, il semblerait que les études montrent l'inverse et que ce sont des enfants qui vont acquérir des compétences supérieures et qui seront plutôt plus doués dans les études.
Exactement. Il est important de dire que les gens qui défendent les langues régionales ne défendent pas de parler uniquement basque ou uniquement corse. Tous les gens défendent le bilinguisme. C'est-à-dire le français comme langue commune ne pose de problème à personne. Le problème, c'est qu'on arrive au français comme langue unique qui va détruire les autres. Et effectivement, donc on a maintenant 50 ans de recul et ces élèves qui ont fait leur scolarité dans les écoles immersives, non seulement ne sont pas handicapés en français, mais ils ont des résultats au bac de français meilleurs que la moyenne nationale, selon les chiffres de l'éducation nationale.
Vous parlez de la langue régionale, vous ?
Mal, très mal.
Laquelle ?
Le béarnais occitan.
Ah, voilà. Vous pouvez nous dire trois mots ?
Ah, Adichat, c'est que soy hero virus desta aquí.
Germain Héroir, vous comprenez le béarnais ?
Adichat, et toutes les chansons béarnaises, j'ai chanté les chansons béarnaises.
Voilà.
Je ne vais pas vous la chanter maintenant.
Mais si vous voulez, c'est normal, parce que les neurosciences ont prouvé que le bilinguisme précoce favorise l'apprentissage d'une troisième langue et favorise la réussite scolaire en général, parce que ça crée des connexions dans le cerveau qui sont très favorables à la réussite scolaire.
Il y a beaucoup de choses à dire sur la réussite scolaire. Hein. Ah, parce que le bac d'aujourd'hui, franchement...
Je vous inviterai à nouveau, Jean-Marie Roy. On a fait un débat il n'y a pas longtemps sur à quoi sert encore le bac. Je suis sûr que vous auriez eu des choses à dire, mais vous reviendrez. C'est promis. Merci Jean-Marie Roy. Merci infiniment d'avoir été ce soir dans le Club des Idées pour parler de ces langues régionales.
Europe 1, Julien Buchy.
19h37, on marque une pause dans quelques secondes. On va prendre la direction de Roland-Garros. Tous les résultats du jour en direct, c'est avec notre équipe sur place et puis Cédric Pioline pour notre rendez-vous quotidien pendant la quinzaine. Service Pioline, à tout de suite.
Service Pioline sur Europe 1. Votre rendez-vous Roland-Garros avec Julien Bugier.
Les vainqueurs des quatre grands chelems, dont ici en 2018, se qualifient pour les demi-finales, les Français Pierre-Hugues, Herbert, Nicolas, Mahut.
Et ben voilà, il reste des Français à Roland-Garros, ça fait du bien en double. Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir.
Notre consultant pour cette quinzaine de Roland-Garros. Bonsoir à vous, Corinne Boulou, spécialiste évidemment tennis d'Europe 1.
Bonsoir Julien.
Et on vous retrouve donc en direct de Roland-Garros à la porte d'Auteuil avec Johanna Chabas qui nous fera découvrir l'un des aspects méconnus du tournoi. Tout d'abord, Corinne, un petit tour d'horizon de cette journée avec les premières qualifiées pour les demi-finales, ça y est.
Oui, affiche inédite dans le tableau féminin. Il va falloir s'y faire. Après deux matchs accrochés de 2h30, la première demi-finale opposera la Slovène de 23 ans Tamara Zidanček, 85e mondiale, qui est en train de vivre un rêve éveillé. Elle qui n'a jamais franchi plus de deux tours en Grand Chelem. C'est même historique pour son pays, hein, puisqu'elle est la première à se hisser dans le dernier carré d'un tournoi majeur après avoir éliminé l'Espagnole Badosa. Elle sera opposée jeudi à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 30 ans, 32e mondiale, qui a sa 14e participation à Roland-Garros. Et après 7 quarts de finale en Grand Chelem, voit sa combativité récompensée, en éliminant sa partenaire de double, la Kazakh Elena Rybakina, la Russe en français, s'il vous plaît, très émue d'être en demi-finale à Roland-Garros, on l'écoute.
Je ne sens pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais quand même, bien sûr que je suis très très contente, c'est mon premier demi-finale. J'ai eu 7 quarts de finale, je pense, donc c'était un incroyable match, je pense, vraiment très contente. Je ne sais pas, mentalement, c'était trop trop dur. Ce matin, j'étais hyper nerveuse. Je devais jouer contre Yelena. Mentalement, c'était très très dur, mais bon, à la fin c'est le tennis, elle voulait gagner, moi aussi je veux gagner, c'est normal, c'est le sport, mais je suis merci, ça aussi ça m'a aidé un peu aussi.
Alors si Anastasia Pavlyuchenkova est aussi à l'aise en français comme son compatriote Daniil Medvedev, hein, d'ailleurs, c'est parce qu'elle vit à Beaulieu dans les Alpes-Maritimes et qu'elle a été en partie formée à l'Académie Mouratoglou en France.
Bon, tout s'explique évidemment. Le premier quart de finale, messieurs, est en cours, Corinne.
Eh bien, il vient tout juste de s'achever. On retrouve sur le court Philippe Châtrier, Axel May pour cette rencontre qui opposait Alexander Zverev, l'Allemand 6e mondial, à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.
Oui, oui, et ça a été un match. Au début, en fait, les premiers jeux simplement ont été accrochés. Et puis Zverev a su débreaker, remporter la première manche 6-4 en 49 minutes face à Davidovich Fokina. La deuxième manche en 26 minutes 6-1. Et la troisième manche qui vient de se terminer 6-1 également en 21 minutes. Ce qui fait 2 heures de jeu pour un quart de finale. C'est quand même extrêmement rapide. Donc Zverev, premier qualifié. Et ce soir, il affrontera le vainqueur du match de ce soir entre Tsitsipas et Medvedev en demi-finale.
Bien, merci Axel. Alors Cédric Pioline, un peu comme l'Italie, ça y est, l'Espagne semble avoir une relève.
L'Espagne, oui, l'Espagne semble avoir une relève. C'est bien, c'est tout ce qui se passe.
Chez les jeunes, oui, effectivement, avec Davidovic, Alcaraz.
Bien sûr, il y a vraiment pas mal de jeunes qui arrivent et qui... les anciens sont encore là, bien entendu, mais...
Nadal.
Mais c'est vrai que l'Espagne, depuis 30 ans, je dirais, ouais, 30 bonnes années, sort régulièrement des joueurs qui arrivent à d'horizons différents, avec des coachs différents aussi, c'est important de le noter. Évidemment, sur leur surface de prédilection qui est la terre battue.
Un mot sur Zverev, qualifié pour sa première demi-finale ici à Roland-Garros.
Oui, de plus en plus de constance dans son jeu après un match très solide, même si je pense que son adversaire du jour, l'Espagnol, était un petit peu, enfin pas diminué, mais probablement un peu épuisé par les efforts qu'il a consentis aux deux tours précédents. Donc tant mieux pour lui, je dirais, comme l'a dit tout à l'heure, la qualifier pour les demi-finales, c'est le sport. Donc il faut défendre ses chances avec ce qu'on peut ce jour-là. Mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire, Zverev.
Et puis Corinne, le cocorico du jour dans le tournoi de double, évidemment pour les Français, on l'entendait tout à l'heure.
Exactement, la paire Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales du tournoi de double et le retour du public dans les gradins leur donne un supplément d'âme pour viser une nouvelle finale comme en 2018 où ils avaient remporté le titre. Interview du double Mahut Herbert pour commencer.
Pour l'instant, on l'a gagné une fois et ça serait magnifique d'arriver déjà à être en finale en fin de semaine et de se donner une chance d'en gagner un deuxième.
Ce qui est fantastique aussi, c'est de pouvoir le partager à nouveau. C'est que les gens sont de nouveau dans les tribunes, nous soutiennent. On a vraiment le sentiment qu'ils ont vraiment envie qu'on aille au bout. Quoi. On le ressent à l'entraînement, on le ressent sur les présentations de match, on le ressent quand les moments sont importants. Et on a la chance d'avoir gagné les quatre, mais si on avait un cinquième à gagner, évidemment que ce serait celui-ci. En France, chez nous, même sur au niveau de la programmation, on voit bien que le tournoi fait en sorte qu'on joue dans les meilleures dispositions pour avoir le plus de soutien possible. On sent cette énergie positive et pour l'instant, ça nous a amené là. On espère que jeudi après-midi, on soit là devant toi en train de parler de la finale. Ça serait top.
Bien, vous ne bougez pas les amis, on vous retrouve dans quelques secondes. On reviendra, tiens d'ailleurs, sur le double dans quelques instants avec vous, Cédric Piolina, tout de suite.
Avantage Europe 1.
Julien Bugier.
Cédric Piolina.
Roland-Garros 2021.
Europe 1, radio officielle.
Oui, avec la deuxième partie de notre rendez-vous, service Pioline, dans un instant, l'œil de Johanna sur les à côté du tournoi, la question pour la gratter à notre consultant. Mais on commence d'abord, Corinne, par l'info insolite du jour.
C'est mieux avec le micro ouvert. Saviez-vous qu'un président des États-Unis est venu assister à un quart de finale il y a 20 ans? Il s'agit de Bill Clinton. En 2001, il fait son entrée dans la tribune présidentielle du Courchâtrier en plein match pour assister au quart de finale qui oppose son compatriote André Agassi à Sébastien Grosjean. Une entrée très remarquée par le public, évidemment. Le numéro 1 français est alors mené 1-7-0. Effet déstabilisant ou pas, André Agassi perd les deux manches suivantes. Au début du quatrième set, comme le raconte notre confrère Christophe Taureau dans son Dico Culture illustrée de Roland-Garros, Bill Clinton quitte la tribune présidentielle. Sur le court, Agassi prend le service de Grosjean et il a la possibilité de mener 3-0 quand Bill Clinton fait son retour en tribune. La poisse pour Agassi qui perd à nouveau ses moyens. Sébastien Grosjean s'impose en 4-7 et se hisse en demi-finale. Alors la présence du président américain en tribune a-t-elle eu une influence sur ce quart de finale? On ne le saura jamais vraiment. Interrogé après le match sur les allers-retours de Bill Clinton, toujours escorté d'une multitude de gardes du corps, André Agassi aura le culot de dire qu'il ne savait pas que Bill Clinton était là, furieux qu'il était d'avoir été éliminé.
Sacrée anecdote, on s'en souvient peut-être, vous Cédric, moi pas en tout cas. Est-ce que les joueurs, ils peuvent être perturbés par des éléments extérieurs comme ça quand ils jouent un match?
Oui, clairement. D'ailleurs, c'est l'anecdote de Corinne en est un bon exemple. C'est vrai que même s'il a nié, je dirais, dans sa conférence de presse avoir été gêné, il l'a été clairement. Je m'en rappelle d'ailleurs.
C'était étonnant.
En tant que président, moi, c'était une star, quoi, de la politique. Alors peut-être que Agassi avait d'autres opinions d'ailleurs politiques et que du coup ça l'a perturbé, mais oui, ça peut avoir tout à fait une influence sur le cours du jeu parce que déjà ça transporte l'énergie du public ailleurs, totalement sur un autre sujet d'attention, parce qu'il y a quelque chose de plus fort ou peut-être plus gros. Et donc là, ça a été vraiment à l'avantage de Sébastien Grosjean.
Bien. Changement de côté, balle neuve pour le regard de Johanna Chabas sur Roland Garros. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Alors mission découverte ce soir sur cette édition des Internationaux de France. Les montagnards sont là, oui, à Roland-Garros, curieusement. Ils sont un certain nombre à avoir quitté leur montagne pour préparer les terrains. Dites-nous ça.
Oui, c'est ça. Dans la vie, ils sont moniteurs de ski, travaillent sur les tire-fesses ou les remontées mécaniques. Et quand la saison hivernale est finie, ils font des centaines de kilomètres chaque année pour venir à Roland-Garros. Ils sont une trentaine de montagnards à travailler sur les terrains. Et près de la moitié d'entre eux viennent du même village, Saint-Sorlin-d'Arves, en Savoie, à peine 300 habitants. C'est là d'où vient Yanis, qui a fait embaucher plusieurs de ses amis.
Il y a une mafia. Non, nos montagnes, c'est des petits villages, on se connaît tous. C'est un peu les bruits de couloir, on parle, on discute. Et puis après, bah, petit à petit, un montagnard vient, deux montagnards, trois montagnards, et puis il y a la moitié du village.
Et pour eux, Roland-Garros, c'est l'événement parfait. Les pistes en montagne sont à l'arrêt, donc ça permet de compléter leurs revenus. Et puis, ils ont des profils assez recherchés, habitués à travailler de longues heures à l'extérieur, quelles que soient les conditions climatiques.
Bien. Et ils sont tous logés à la même enseigne, Johanna ?
Oui, la Fédération Française de Tennis loge tous les préparateurs de terrain qui ne sont pas franciliens dans un camping tout proche du stade, à côté du Bois de Boulogne. Donc tous ces montagnards se retrouvent le soir et Greg, qui l'hiver travaille sur les télésièges, m'a avoué que l'ambiance est assez festive dans ce camping.
Le soir, ça fait un petit peu comme si on était en vacances. On est tous en bungalow au camping, donc tous les soirs on est tous ensemble. Donc ça très permet de se resserrer un peu les liens aussi. On a toujours envie de traîner un petit peu pour discuter avec les collègues. Donc, les nuits sont assez courtes, on va dire. Quoi. On ne fait pas que la relâcher la pression. On va boire un petit peu quand même. Hein. Ah ouais.
Avec modération, bien sûr, hein, j'insiste. En tout cas, avec cette ambiance, ils sont sûrs de vouloir tous revenir l'année prochaine.
Encore une fois, on ne parlera jamais assez de l'importance de l'entretien des terrains. Ceux qui les bichonnent viennent de toute la France. J'imagine que les joueurs ne se rendent pas compte de tout cela quand ils arrivent et qu'ils sont concentrés pour le match.
Non, bien sûr qu'ils ne sont pas vraiment au courant. Alors c'est bien parce que Johanna nous fait voyager à chaque fois dans le stade, dans les 8, plus ou moins 8 hectares de Roland-Garros. Mais c'est vrai que ce sont tous les tout ce qui est caché qui fait que le tournoi fonctionne, que le tournoi est une réussite et que eh bien que ça soit considéré d'ailleurs comme les meilleurs cours au monde, tout simplement les meilleurs cours en terre battue, je précise. Et oui, on va chercher des compétences parfois voilà, un petit peu insoupçonnées dans des endroits exotique, enfin voilà quoi, c'est assez marrant comme sujet.
Alors maintenant, l'instant poil à gratter comme on le fait tous les soirs. À vous de jouer, Corinne, pour la question piège.
Oui, alors l'épreuve de double est-elle une épreuve à part entière en grand chelem ? En tout cas pour les Français, certainement. Aujourd'hui, vous avez la paire Herbert Mahut, on en a parlé, hein, aux portes d'une cinquième finale en grand chelem, 3 ans après leur seule victoire en double ici. Alors comment oublier la paire Fabrice Santoro-Michael Yodra, vainqueur à 2 reprises du double à l'Open d'Australie, d'Arnaud Clément, associé à Michael Yodra aussi, qui s'impose à Wimbledon en fier successeur des Borotra, Brugnon, Lacoste et Cochet, les mousquetaires du tennis français. Sans oublier non plus la victoire de Yannick Noah, associé à Henri Lecomte en double à Roland-Garros en 1984, suivi 30 ans plus tard de celle de Julien Beneteau et Édouard Roger Vasselin. Les Françaises ne sont pas en reste. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia s'imposent ensemble ici en 2016. Marie Pierce en 2000 remporte le titre en simple et en double avec la Suissesse Martina Hingis. Nathalie Dechy, Françoise Dur, Simone Mathieu et Suzanne Lenglen. Toutes ont inscrit aussi leur nom au palmarès des épreuves de double en grand chelem.
Alors Cédric Pioline, c'est vrai qu'il y a une tradition du double en France, on est plutôt bon d'ailleurs en la matière, mais ça reste un peu à l'ombre des matchs en simple hein, qui retiennent évidemment toute l'attention du public et des médias.
Oui, évidemment, la compétition reine, c'est le simple homme ou le simple dame. Mais c'est vrai que le double, d'abord, c'est une vieille tradition hein, depuis la création des tournois du Grand Chelem. C'est vrai que c'est ça s'est un petit peu perdu à un moment parce que tous les meilleurs à l'époque avaient pour habitude de jouer le simple et le double. Et puis l'exigence montant en simple, les joueurs ont voulu se reposer un petit peu, donc jouaient de moins en moins le double. C'est devenu même quasiment pour certains un métier en soi, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement joueurs de double. Mais je dois dire qu'il y a plein aussi de joueurs qui ont accédé au simple par le double parce que ça leur permet de progresser. progresser, d'être sur le circuit, de gagner des sous pour pouvoir voyager. Et donc il y a vraiment, je crois que c'est vraiment important et c'est quelque chose aussi qui plaît énormément au public, encore plus quand il y a une équipe nationale comme c'est le cas pour nous avec Mahut et Herbert. Mais à Wimbledon par exemple, c'est hyper populaire.
Bien, merci Cédric pour cette réponse et on vous retrouve évidemment demain pour un nouveau service Pioline comme tous les soirs pendant la quinzaine avec Corinne Boulou et Johanna Chabas. Merci à tous les trois et à demain.
À demain.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel de l'info, Julien.